l'oiseau blanc, Philippe Trousselard, bonjour. L'oiseau blanc avec aujourd'hui
Claude Lelay.
Nous recevons aujourd'hui Claude Lelay, ancien directeur des essais en vol d'Airbus, qui le 27 avril 2005, avec Jacques Rosé, faisait décoller de Toulouse-Blagnac pour la première fois l'Airbus A380, ce plus gros avion commercial au monde, dont la masse au décollage était ce jour-là, si je me souviens bien, de 421 tonnes. Mais Claude Lelay, c'est aussi ce pilote de la patrouille acrobatique Porthos, qui, avec son ami Denis Legrand, volait au salon d'Oshkosh aux États-Unis en 1981 sur le plus petit bimoteur du monde, le Cricri, dont la masse au décollage est d'environ 150 kg. Alors, 421 tonnes, 150 kg. Claude Lelay, l'homme, le pilote, qui êtes-vous? Car nous avons envie de mieux vous connaître avant de revenir sur ce contexte des plus passionnants qu'est celui du monde des essais en vol que vous connaissez si bien.
Bah écoutez, je suis un ingénieur qui a commencé à piloter très tôt. J'ai commencé à piloter en 1963. Et puis, tout au long de ma carrière, j'ai mixé mes activités d'ingénieur et de pilote.
Et une petite question tout à fait par ce personnel. On a entamé dans cette émission L'Oiseau Blanc, un des thèmes qui est le thème de la passion de l'aéronautique. Quel a été votre déclic personnel ?
Mon déclic, c'était partiellement mon père qui me racontait comment en 1929, il avait fait son baptême de l'air sur un Breguet 14. Alors lui était passionné de l'aéronautique sans être vraiment un spécialiste. Il en a beaucoup parlé, donc assez naturellement, j'ai passé mon BIA, puis je me suis retrouvé à faire du vol à voile, à voler sur des petits avions. Et j'ai été lâché en 1963.
Donc la question que je vais vous poser va nous donner votre âge, mais à quel âge avez-vous commencé donc à piloter?
Écoutez, je suis né en 46, donc faites le calcul vous-même. Ça fait, je ne sais plus calculer.
Donc vous avez piloté quand même, vous avez piloté très jeune. Ce qui est remarquable en fait, c'est d'arriver dans cette carrière que Toulouse connaît si bien, puisqu'on parlait tout à l'heure du 27 avril 2005. Il y avait, je crois, 50 000 personnes sur l'aéroport de Toulouse-Blagnac. Votre premier décollage du 380 était retransmis sur la place du Capitole. Voilà, donc en fait, votre carrière, on va aborder plus particulièrement le contexte des essais en vol, après cette petite touche personnelle sur laquelle on reviendra. Les essais en vol, Claude Lelay, vous l'abordez dans un des livres que vous avez écrit qui s'appelle « Les essais en vol de l'A380 » qui est produit chez Cherche Midi. Et ce livre, pour l'avoir lu, j'ai découvert un peu beaucoup l'homme plus encore que je connaissais, mais l'homme plus encore didactique. Vous avez décrit dans ce livre les essais de manière, et vous les décrivez de manière extrêmement didactique. Je dirais que vous n'avez pas de langue de bois quand vous abordez vos sujets. Et puis à côté de ça, on a quelques touches, quelques anecdotes dont on parlera. Alors, le premier thème que je voudrais aborder, ce qui est assez surprenant, c'est qu'en fait, entre le premier vol et ce qu'on appelle la certification, donc on reviendra également sur le thème de la certification. Qu'est-ce que la certification d'un avion? Donc entre ce premier vol et la certification, eh bien, se déroulent les essais en vol, parce qu'il y a aussi d'autres essais, les essais au sol. Et la durée a été de 20 mois. Et si mes notes sont bonnes, vous aviez prévu tout au début, et vous le dites dans votre livre, que vous aviez une prévision de 15 à 16 mois entre le premier vol et la certification. Donc en fait, vous êtes arrivé à 20 mois, ce qui est assez remarquable dans le cadre des objectifs qui étaient fixés. Ce qui signifie que les essais en vol, eh bien, c'est quelque chose d'extrêmement délicat, certainement à gérer. Donc, est-ce que vous pourriez nous présenter ce contexte plus particulier ?
Oui, alors les essais en vol, c'est très difficile de faire des prévisions sur les durées des essais en vol. Et c'est là où, quelquefois, il y a eu dans le passé des problèmes avec les managers qui voulaient à tout prix, disons, comprimer la durée des essais en vol. Mais le problème, c'est que quand on va commencer à faire des essais, on ne sait pas ce qu'on va trouver. Alors, quand ça se passe bien... Bon, on est capable de tenir des délais assez courts. Et puis, ben, quelquefois, on a un gros problème qui nous retarde. Et il se trouve que sur la 380, on n'a pas eu de problème majeur. Le plus gros problème qu'on a eu, c'est qu'il a fallu renforcer la dérive. Bon, renforcer une pièce de structure, c'est quand même pas la mer à boire. C'est relativement simple. Ça prend quelques semaines, quelques mois. Mais c'est pas une opération complexe, c'est pas refaire tout l'arrière de l'avion parce que les performances sont pas au rendez-vous, comme l'ont fait certains constructeurs. Je donnerai pas de nom, mais là c'est une très très grosse opération. Le petit retard qu'il y a eu sur la 380, il est dû à d'autres raisons de retard de la mise en ligne des avions de développement suivants. On a eu un premier avion qui a volé à peu près à la date prévue, et les avions de développement suivants ont volé un petit peu plus tard que ce qu'il était prévu, ce qui a fait glisser tout le planning.
Vous parlez de premier avion et d'avion suivant. Comment s'est déroulé pour nos auditrices et auditeurs, comment se déroule le choix de ces avions, en fait, entre le premier et le deuxième? Est-ce que ces avions sont prévus pour des compagnies aériennes derrière, dès le premier? Comment cela fonctionne?
Généralement, pour Airbus, c'est pas la même chose pour tous les constructeurs, hein, mais pour Airbus, c'est vrai pour la 380, c'était vrai pour la 350 avec des petites variantes. Mais prenons l'exemple de la 380, il y avait deux avions qui étaient ce qu'on appelle des avions techniques, c'est-à-dire complètement instrumentés pour pouvoir faire quasiment tous les types d'essais techniques. Et en plus, il y avait deux avions équipés pour faire les essais de mise au point de la cabine, parce qu'il y a différentes définitions de la cabine, différentes options, différents éléments, et pour cela, il a fallu deux avions complémentaires. Alors, ces avions, bon, les avions cabine, on les... bon, il n'y a pas trop de trous, il n'y a pas trop de choses. Ils sont en général revendus à des compagnies aériennes. Ils restent en service chez nous pas très longtemps. Et les avions techniques, par contre, on les garde relativement longtemps.
Et donc, en fait, les compagnies aériennes choisissent quelque peu, dès le début, la cabine, enfin, la manière d'équiper cette cabine.
Oui, ça, pour les compagnies aériennes, c'est un petit peu différent. Ils choisissent la cabine. On a un centre maquette chez Airbus. Et là, c'est pas Airbus, hein, qui fait les aménagements et qui fait toutes les installations. Il y a des spécialistes qui font ça. Même si ça se fait avec la participation d'Airbus, parce qu'il faut bien entendu assurer la compatibilité.
Alors, pour revenir à ce problème de la dérive, comment vous l'avez découvert, ce problème de la dérive ?
C'est tout simple. Au vol numéro 9, c'est-à-dire fin mai, on faisait des essais de vérification de taux de montée avec un moteur coupé. Et on s'est aperçu qu'avec un moteur coupé, il y a des dissymétries. Il faut braquer la gouverne de direction, la gouverne qui se trouve à l'arrière de la dérive. Et on s'est aperçu que ça faisait des efforts anormaux sur la dérive, sensiblement plus élevé que ce que ça aurait dû être. Donc, on a dit, il faut la renforcer, c'est tout.
Et ces efforts sont détectés par des ingénieurs qui sont présents durant le vol, ou vous-même, en tant que pilote, vous arrivez à cerner ce problème?
En tant que pilote, on n'y voit rien du tout. Si vous voulez, sur un avion comme ça, il y a, je ne sais pas, 100 000 capteurs. partout qui sont surveillés. Alors, quand je dis qu'ils sont surveillés, les ingénieurs ne regardent pas les 100 000 capteurs, mais il y a une alerte quand un paramètre passe au-dessus d'une valeur anormale. Alors quelquefois, c'est le paramètre, bon, il y a un mauvais contact, on sait qu'il est faux, on s'en occupe pas. Et puis quelquefois, c'est corroboré par différents autres paramètres autour. Et là, on dit, attention, il y a un problème. Et on regarde de plus près.
Et à bord, durant les essais, vous êtes combien, en fait, en moyenne ?
En moyenne, durant ces essais techniques, on est 5, deux pilotes. Un mécanicien navigant qui est entre les deux pilotes, qui nous aide pour certaines manœuvres et qui surveille le système. Et puis deux ingénieurs derrière qui sont dans la cabine avec toute une instrumentation. Quelquefois trois ingénieurs.
Donc on a reçu dans notre émission L'Oiseau Blanc dernièrement Michel Rétif qui était mécanicien navigant de Concorde, et on voit d'ailleurs que même avec le 380 on retrouve un mécanicien navigant à bord, alors que une fois que l'avion est en exploitation, il n'y a bien évidemment plus de mécanicien navigant.
Oui, mais si vous voulez, le mécanicien navigant, il a une fonction très très particulière dans les essais où il y a des essais où, par exemple, les deux pilotes sont très occupés à faire leur manœuvre. Eh bien, on dit au mécanicien navigant, bon, tu surveilles, tu ajustes la poussée des moteurs. Ou alors, il arrive quelquefois que, par exemple, on coupe un certain nombre de systèmes d'alerte. Pour faciliter les essais, on demande aux mécaniciens de surveiller un certain nombre de paramètres. Ça serait une charge un peu lourde pour les pilotes et ça irait pas dans le sens de la sécurité de faire ça à deux devant. Bon, il y a beaucoup d'essais qu'on pourrait faire à deux devant, mais globalement, c'est plus efficace comme ça.
Alors comme on le disait tout à l'heure, ces essais conduisent à une phase finale qui est celle de la certification, c'est-à-dire l'avion est apte, je suppose, à aller dans le milieu commercial, à être vendu. Est-ce que vous pourriez, avant de revenir sur les quelques particularités d'essais, nous dire ce qu'est la certification et comment celle-ci est conduite durant la phase des essais en vol ?
La certification, c'est l'approbation par les services officiels, ce qu'on appelle le EASA, l'Agence européenne de sécurité, qui donne son tampon. Mais les essais de certification se font tout au long des essais, c'est-à-dire que il arrive dans certains cas qu'on ne fait même pas d'essai de développement, on passe directement à l'essai de certification. Bon, parce qu'on sait qu'il n'y a pas de difficultés particulières. Alors, ça dépend des avions, ça dépend du contexte. Moyennant quoi, la certification s'étale tout au long des essais de développement. Si vous voyez, il y a un mixte permanent entre, d'une part, le développement et la certification, avec plus de développement au début et plus de certification vers la fin.
Donc, de manière régulière, cette agence européenne, l'EASA, dont vous parliez précédemment, intervient sur des thèmes particuliers, voire avec des pilotes, des pilotes de l'EASA.
Oui, si vous voulez, dans les vols, il y a des vols de certification. Ce sont soit des vols de mesure. Bon, auquel cas, il n'y a pas vraiment besoin d'un pilote de l'EASA, mais quelquefois, ils participent quand même. Ils sont toujours les bienvenus. Soit des vols où il faut un jugement sur les caractéristiques de l'avion. Et là, ben, il faut un pilote de l'EASA à bord, avec un ingénieur toujours.
Vous avez toujours eu, pardonnez-moi de ma question, mais les rapports avec cet organisme de certification ont toujours été corrects, jamais de difficultés
si vous voulez, en ce qui concerne la 380, il y avait deux excellents pilotes. Il y en a même un qui a rejoint en plus, qui était deux excellents pilotes, trois même à la fin. Donc, de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Ceci étant en certification, c'est comme partout. Il y a toujours des points de désaccord sur des résultats, des trucs d'organisation, des choses comme ça. Mais Bon, tout ça, c'est relativement marginal et ça se résout facilement.
Donc, on parle de la certification européenne et comment se connecte cette certification à la certification plus globale, et je dirais en particulier au niveau des États-Unis et voire sur le monde.
La certification européenne est reconnue par les États-Unis moyennant le fait de venir voir un certain nombre de points qui peuvent les intéresser. En général, ils viennent deux fois, une fois au début des essais, une fois à la fin. Sur la 380, ils sont venus trois fois. Il y avait vraiment un pilote qui était absolument remarquable. Donc, bon, c'est absolument aucun problème. Mais voilà, encore une fois, c'est pas systématique, ça dépend du type d'avion.
Mais ce que j'ai compris dans votre livre, c'est qu'en fait, quand vous êtes intervenu au niveau de vos contacts américains pour ce complément de certification, est-ce que finalement, en toute rigueur, ce n'était pas obligatoire? Est-ce que la certification de l'EASA européenne suffit-elle pour que l'avion soit utilisable par une compagnie vole dans le monde?
Oui, mais ça, c'est pas nous qui décidons. Disons qu'il y a des accords internationaux et il y a de plus en plus d'accords entre l'EASA et la FAA, l'organisme de certification américain, avec une reconnaissance mutuelle des certifications. Donc, dans bien des cas, ce qui se fait en Europe est reconnu aux États-Unis et inversement, sans que les gens viennent voler. Maintenant, il y a des cas un peu particuliers. La 380, un gros avion, peut y avoir des particularités. Et puis, les gens sont curieux. Ils aiment bien voir, mettre leur nez un petit peu pour voir à quoi ça ressemble. Et c'est humain, finalement.
Alors, j'ai souvenir de ce qu'avait vécu Concorde au niveau des États-Unis. Est-ce que vous avez eu, avec la 380, quelques difficultés, justement, quelques réticences pour accueillir l'avion aux États-Unis?
On n'a pas eu de réticence, mais on a quand même eu un problème qui ne s'est résolu que ce mois-ci, d'ailleurs, sur les turbulences de sillage. Alors, c'est quoi les turbulences de sillage? Chaque avion laisse derrière lui une traînée, tout petits tourbillons, et lorsqu'on rentre dedans, on se fait pas mal secouer. Et comme l'avion était plus gros, nos amis américains ont prétendu que c'était des tourbillons extrêmement violents, donc ils ont augmenté la séparation de manière absolument exagérée. Et au niveau de l'Organisation de l'aviation civile internationale, ça nous a fait une grosse pénalité dont on a très vite démontré qu'elle était complètement injustifiée. Alors en Europe, le problème s'est réglé il y a 3-4 ans, mais dans les règles internationales, le problème il n'est pas tout à fait réglé, mais ça va paraître officiellement en 2020, ce qui est quasiment demain à l'échelon de l'aéronautique.
Et en fait, ça a duré quasiment plus de 7 ans, cette question réglementaire sur le...
Cette affaire réglementaire aura duré 15 ans pour remettre de l'ordre, mais c'est le cycle aéronautique typique.
Alors, vous nous décriviez la turbulence de sillage, les deux petits tourbillons. Est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu comment se forment ces deux petits tourbillons pour nos éditrices auditeurs?
Quand on a un flux d'air sur l'aile, il y a une surpression sous l'aile et une dépression sur le dessus de l'aile. Et l'air qui est comprimé en dessous a envie d'aller sur le dessus, moyennant quoi, en bout d'aile, il y a une rotation qui se forme et tout ça s'enroule derrière l'avion et fait un petit tuyau qui tourne, qui a un diamètre de l'ordre de 4 mètres, 6 mètres.
Oui. Et la 380 avait-il finalement, était-il, je dirais, si problématique dans ces questions de turbulence de sillage? Parce que vous les avez vécues, mais en fait, la 380 est-il plus contraignant qu'un autre gros avion?
Il est à peine plus contraignant qu'un autre gros avion, tel que c'est apparu aujourd'hui, mais les pénalités demandées par les Américains étaient absolument énormes et ça a donné lieu à des tirs. Mais vraiment, c'est le seul problème qu'on a eu avec l'Américain. Et d'ailleurs, ce n'est pas une affaire de certification. Ceci est en dehors de la certification, ce sont des affaires opérationnelles.
Oui, opérationnelles, réglementaires, et voire même applicables en France, chez nous.
Hein. Nous, on a notre propre règle, mais...
Alors, vous venez de dire que l'avion finalement n'était pas plus contraignant qu'un autre. Moi, j'ai une phrase au niveau du pilotage. Vous avez dit, je crois que l'avion est extrêmement facile dans le pilotage et il ressemble à un Airbus 320. C'est-à-dire qu'en fait, on voit le 380, sa masse, son envergure. D'autres, il y a l'Airbus 330, 340, et vous comparez le 380 au 320, qui est cet avion que certains utilisent peut-être entre Paris et Toulouse.
Vous savez, quand vous maniez le manche sur le côté, à la limite, vous ne savez pas ce que vous avez derrière. Et ce qui est intéressant, c'est quand on fait, par exemple, des présentations en vol, au Bourget ou ailleurs, la présentation que l'on fait, les manœuvres sont exactement les mêmes, quel que soit le type d'avion. Et il n'y a absolument pas de différence sur ce qu'il faut faire. Alors, quand je dis qu'il n'y a pas de différence, ce n'est pas tout à fait vrai. Les petites différences sont liées à une inertie qui n'est pas tout à fait la même. Évidemment, le 380 a un peu plus d'inertie. Mais globalement, tout ça, c'est assez minime. Ça se manœuvre de la même façon.
Tout a l'air facile avec vous, Monsieur Lelay.
Oui, mais ces avions sont extrêmement faciles. Vous savez, un avion comme ça, c'est plus facile qu'un avion léger. Hein.
Alors, je profite de cette remarque pour reprendre une anecdote de votre livre, puisque vous avez embarqué un jour l'ancienne directrice du musée de l'air, Catherine Honori, vous l'avez prise à bord, qui n'a pas de certification, enfin, elle n'est pas vole aux instruments. Et puis j'ai cru comprendre qu'elle a piloté assez rapidement ce 380.
Oui, elle nous a époustouflé parce que je lui avais simplement la veille un briefing sur la cabine, mais bon, sur le poste de pilotage, les instruments à regarder, mais manifestement, ce n'était pas une pro de tout ça. Et puis le lendemain, quand elle a, bon, après le décollage, il y a tous les automatismes qui se sont mis en marche, les systèmes de guidage. Alors on lui a enlevé tout ça parce que c'était plus facile de piloter, je dirais, naturellement. Et au début, elle hésitait parce qu'elle a un avion de voltige, lui, avec laquelle on fait juste un petit coup de manche et on a fait un quart de tonneau. Là, on met un quart de manche et ça met du temps à bouger. Donc, elle était très hésitante. Et puis, petit à petit, elle s'y est mise. Petit à petit, elle s'y est mise très, très rapidement pour elle a fait le dernier circuit toute seule. C'est absolument époustouflant la manière dont elle s'est habituée à cet avion.
Alors, Catherine Monori a été deux fois championne du monde.
Deux fois championne du monde de voltige.
De voltige. Alors, en fait, ça, tout cela confirme ce que vous disiez également dans une interview deux jours avant le premier vol. Pour le premier vol, c'était un vol très simple, donc tout est simple. On va revenir peut-être à des choses un peu plus compliquées dans les essais. Le décrochage, qui est quelque chose de très spécifique. Pourriez-vous également nous expliquer ce qu'est le décrochage, quels essais vous avez fait avec cet A380 à ce niveau-là?
Alors le décrochage, bien ça consiste à réduire la vitesse jusqu'à ce que les ailes perdent leur portance et à la limite ça pourrait aller jusqu'à la perte de contrôle. Bon. L'une des difficultés, c'est qu'on ne sait pas ce qui va se passer parce que la soufflerie ne peut pas donner des essais fiables. Il y a tout simplement un problème d'échelle. Donc, quand on va faire des décrochages pour la première fois, on est un peu dans l'inconnu. l'inconnu à différents niveaux. Alors sur la 380, on les a fait dès le vol numéro 3, parce que c'est toujours pareil, il faut aller vite dans le développement et voir tout de suite quels sont les problèmes potentiels de l'avion. Et on a commencé donc quelques essais de décrochage.
Excusez-moi, numéro 3, ça fait combien de jours après le premier vol ?
Oh, ça doit faire, je ne sais rien, une semaine peut-être.
Ah oui.
Mais j'ai pas le.
Ce qui est très court.
C'est très court, oui. Ouais. Et de mémoire, on a fait une douzaine de décrochages. Et alors, là, évidemment, les problèmes sont apparus là où on les attendait le moins. Enfin, le moins, si on pensait que ça pouvait arriver. Mais les décrochages eux-mêmes étaient. Les caractéristiques étaient très, très bonnes. Les vitesses à laquelle on décrochait étaient plus faibles que ce à quoi on s'attendait. Donc, encore un très bon résultat sur le plan des performances. Mais il y avait des efforts assez importants sur les empennages qui étaient liés à de la turbulence, si vous voulez. Quand on approche le décrochage, l'avion se met à vibrer de partout, ça transmet des vibrations sur l'empennage, et nos informations, nos mesures nous donnaient des efforts importants sur les empennages. Voilà, et donc... Vous voyez, les surprises ne viennent pas forcément des caractéristiques, mais peuvent venir de tout autre problème.
Alors, pour rassurer nos auditrices et auditeurs, en fait, en tant que passager lambda, le décrochage, on ne va pas trop le vivre sur un vol commercial. Et en fait, à quoi sert la détermination de cette vitesse de décrochage ?
Alors, ça sert à plusieurs choses. Ça sert d'abord toutes les vitesses que le pilote va utiliser. Ça, c'est vrai, tous les types d'avions, hein, la commande de vol électrique comme nos Airbus ou d'autres, doivent respecter une certaine marge par rapport à la vitesse de décrochage, soit le décollage ou l'atterrissage. Ça, c'est le premier point. Et deuxièmement, pour éviter d'aller au décrochage, il y a des systèmes de protection. Et pour régler ces protections convenablement, il faut bien savoir à quel moment on décroche et comment se passe le décrochage. Donc on est bien obligé d'aller faire des décrochages pour bien régler la protection qui empêche d'aller au décrochage.
Et sur un A380, les pilotes qui seront les pilotes de l'avion commercial, ils vivent ce décrochage sur un simulateur ou sur l'avion lui-même ?
Non, ça ne se fait pas. Ah, alors, il y a des... Bon, il y a eu dans le passé quelques accidents et on a décidé avec Boeing de revoir un peu la formation pour... Que les pilotes s'approchent du décrochage. Donc, il y a c'est compris maintenant depuis 5-6 ans dans l'entraînement des pilotes. Mais ce n'est pas aller jusqu'au décrochage. C'est au cas, sur les Airbus, c'est au cas où on perde les protections, il y a une alarme et les gens s'arrêtent à cette alarme.
Alors, il est peut-être venu le moment de décrocher et on vous propose, en toute modération, de porter un toast musical. Vous nous avez dit, Monsieur Gelet, Aimé Verdi et l'opéra. Alors, nous vous proposons d'écouter Maria Callas dans cet extrait de la Traviata Libiamo.
Baci avrà
En fait, ce final est quasiment un décrochage. Alors, nous allons revenir. Vous parliez, M. Lelay, tout à l'heure de la soufflerie, d'essais en soufflerie. Quand on parle de soufflerie, on parle également des essais qui ont lieu avant les vols eux-mêmes. Est-ce que vous pourriez nous parler des simulateurs ? Combien de simulateurs, disposiez-vous donc pour la 380 ? Et comment ces essais se sont intercalés avec les essais en vol, après le premier vol d'ailleurs ?
De manière classique, pour ce genre de programme complètement nouveau, on a trois simulateurs. On a en général en fait un premier simulateur c'est le cas pour la 380, qui était à notre disposition à peu près 4 ans avant le premier vol. Mais bien entendu, on ne connaissait pas l'aérodynamique à l'époque. Alors, on lui avait mis une aérodynamique d'un 340-600, et puis ça nous permettait de dégrossir un certain nombre de problèmes sur les systèmes. Ensuite, pour la mise au point proprement dit, on a eu trois simulateurs complètement représentatifs de l'avion sur le plan aérodynamique. Et au début, ce qu'on met dedans sont des modèles de soufflerie. Et au fur et à mesure qu'on avance dans les essais, on peaufine le modèle aérodynamique grâce aux essais qu'on fait en vol. Soit des essais qu'on fait pour le développement, voire des essais spécifiques. Dans les premiers mois, on fait pas mal de vols spécifiques pour avoir un très bon modèle pour nos simulateurs. Ce que je voudrais ajouter, c'est que l'un des simulateurs est couplé à ce qu'on appelle un Iron Bird, c'est-à-dire un système qui représente... qui inclut toute l'hydraulique, les surfaces, les calculateurs, etc., de façon à être capable de mieux simuler une panne hydraulique avec le fonctionnement des servo-commandes, etc.
Alors pour nos auditrices, auditeurs, les simulateurs classiques qu'on peut voir, que certains peuvent connaître, quand on parle de l'Iron Bird, donc cet oiseau de fer, la salle est extrêmement impressionnante à Airbus. On est à l'échelle 1 quasiment au niveau
C'est pas quasiment à l'échelle 1, c'est exactement à l'échelle 1. Il faut que chaque chose soit exactement à sa place. La seule concession qu'on a fait, c'est qu'on a replié les ailes pour que ça prenne un petit peu moins de place, c'est tout. Donc les ailes sont mises en parallèle avec le fuselage. Bon, mais c'est tout.
Cette visite est extrêmement impressionnante parce que lorsqu'on se situe dans la salle de l'Iron Bird avec à l'échelle 1, c'est impressionnant enfin, par rapport aux autres simulateurs classiques. Et c'est là où on voit toute l'importance certainement des essais. Alors, est-ce qu'on peut parler d'essais au sol ? Je ne sais pas.
Oui, ce sont des essais au sol. C'est des essais au sol qui sont très liés aux essais en vol, parce que dans ces simulateurs de développement, on prépare des vols, on met au point les calculateurs, donc c'est complètement lié. Alors, bien sûr, ça se fait au sol, mais il y a une imbrication totale avec les essais en vol.
Oui, donc avec l'Iron Bird, on passe des systèmes qui sont dans l'avion, qui sont dans le simulateur, et on passe à le côté mécanique.
Oui. Ce qui est important, c'est Bon, l'Iron Bird est une chose, mais ce qui est important, ce sont les simulateurs qui, sur le plan aérodynamique, sont complètement représentatifs de l'avion. Ça n'a rien à voir avec des simulateurs d'entraînement qui ne sont pas tout à fait représentatifs.
Alors, et vous, en tant que pilote, Monsieur Lelay, vous avez fait beaucoup de simulateurs. Je lisais dans votre livre, si ma note est bonne, Jacques Rosset disait avoir fait 1000 heures de simulateurs sur 10 ans.
Oui, je crois que c'est ce qu'il m'a dit un jour. J'ai dû faire 1000 heures de simulateurs sur la 380, c'est-à-dire plus que d'heures de vol. Très franchement, j'en ai fait moins parce que du fait de mes fonctions de directeur des essais en vol, j'ai pas participé en détail à tous les essais techniques.
Alors, une fois que l'avion, vous avez eu le premier vol, où on a fait un peu beaucoup de simulateurs, comme on vient de le dire, l'avion s'envole, il est en l'air. Et comment se passe la communication entre l'avion et le sol? C'est-à-dire que vous avez besoin d'évaluer les mesures, ce qui se passe à bord.
Alors, le principe chez Airbus, mais ce n'est pas vrai chez tous les constructeurs, chacun s'organise un peu comme il veut. Hein. Chez Airbus, la conduite de l'avion est faite par les ingénieurs d'essai qui se trouvent derrière. Bon. Et donc, on est relativement indépendant du sol. Mais il y a quand même une salle de télémesure qui suit le vol. Pour plusieurs raisons. D'abord, ça fait un enregistrement en cas de pépin. Bon. On peut avoir des questions à poser à des ingénieurs du bureau d'études qui suivent le vol. Et puis, eux-mêmes peuvent quelquefois nous dire « Tiens, attention à ça, ou ça ne va pas. » Voilà, donc il y a un échange. En général, tout se passe à bord de l'avion et il n'y a pas trop d'échanges avec la salle de télémesure, mais quelquefois, selon les circonstances, il y a des discussions.
Donc, en fait, il y a l'exploitation en direct, voire l'exploitation a posteriori de ces mesures.
Il y a beaucoup de visualisation qui se fait en temps réel à bord de l'avion. Il y en a aussi qui se fait bien sûr en salle de télémesure. Puis après, il y a un dépouillement, disons une analyse dans le détail, mais qui est faite postérieurement au vol avec tous les recalages et tout le soin nécessaire. Quelquefois, à bord, c'est fait avec des paramètres bruts. Donc, il n'y a pas toujours la précision qui va bien.
Et des salles de télémesure, en fait, l'Airbus, l'A380, un rayon d'action, si je ne me trompe pas, de 15 000 km. Ce qui veut dire que lorsque vous êtes en essai, vous ne restez pas spécialement dans la région toulousaine. Donc, il y a d'autres salles de télémesure en France.
Non, il n'y a pas d'autres salles de télémesure. Il y a des relais, il y a des récepteurs de messages télémesure. Il y en a un qui doit être du côté de Saint-Nazaire, il y en a à Bordeaux, il y en a près de Marseille, puis à Toulouse, qui te retransmettent les messages par satellite vers Toulouse, où il y a trois salles de télémesure. Et depuis la 400M, il y a également une salle de télémesure à Séville, avec bien sûr tous les systèmes de réception.
Alors, les essais sont produits parce que derrière, vous avez besoin de vendre l'avion. C'est-à-dire que vous êtes dans un contexte certainement contraignant. Vous avez au sein de l'entreprise des exigences, certainement que je qualifierais de commerciales. Alors, comment se passe cette difficulté? Parce que pour moi, c'est une difficulté à la fois mener les essais, les mener de manière aussi, excusez-moi, aussi honnête que possible, et derrière, peut-être des exigences commerciales. Et vous parliez de green culture dans votre livre.
Oui, alors ça, c'est la green culture, c'est un peu une vieille histoire. Ça s'est passé plutôt dans les années, mettons, 2000, 2006, 2007, où, disons, la direction faisait un petit peu peur et les gens avaient peur de dire quand ça n'allait pas. Et moyennant quoi, il y a des problèmes qui n'ont pas été bien détectés. Certains disaient oui, tout va très bien, alors qu'en fait, ça n'allait pas du tout. Alors évidemment, dans les essais en vol, on ne peut pas se permettre ça. On ne peut pas se permettre de dire oui, tout va très bien quand le système ne marche pas. Bon, d'abord, c'est une question de simple honnêteté intellectuelle, puis c'est une question de sécurité. On ne peut pas se permettre de dire que quelque chose marche bien si ça ne marche pas. Ça met quand même en jeu la sécurité. Donc, c'est quelque chose qu'on a totalement refusé aux essais en vol, d'où quelquefois des discussions avec le management.
Oui, bon, pour vous avoir connu quelque peu, monsieur Lelay, vous êtes quelqu'un de très franc, ce qui est fort appréciable dans le contexte professionnel. Alors, parmi les contraintes durant les essais, les médias, parce que ça ne doit pas être facile lorsqu'on est face à une difficulté. Vous devez certainement gérer avec difficulté l'information.
Non, ça, pour la 380, puis de manière générale, ça n'a pas été tellement difficile. La principale pression est quand même venue de la direction, hein, qui nous met une grosse pression pour être dans les temps. Les médias, c'était relativement facile pour la 380, parce que finalement, c'est un bon avion, et puis il n'y a pas eu de difficultés majeures dans le développement et la certification. Bon, je citais tout à l'heure le problème de la dérive, mais tout ça, c'est assez mineur, hein, c'est pas assez simple à corriger. Bon, donc côté essai, on avait plutôt les bonnes nouvelles à annoncer, et plusieurs fois, on m'a plutôt, quand il y avait des tiraillements ici et là, on nous a fait venir pour annoncer les bonnes nouvelles des essais en vol. Donc franchement, il n'y a pas eu de difficultés spécifiques avec les médias.
Parce que les médias, j'ai souvenir, sur le premier vol de l'A380, il y avait eu un petit problème de porte. Et j'ai souvenir que vous mettez dans votre livre que j'espère que cette information, quelqu'un ne va pas prendre. Pour vous, bien évidemment, c'était très banal et j'ai compris que ce qui s'est passé était quelque chose de très banal. Mais néanmoins, il suffisait d'une photo pour qu'on puisse s'inquiéter de la chose.
Oh ben non, au premier vol, il y a une porte de train qui ne s'est pas refermée parce qu'en vol, le fuselage se déforme légèrement. Les réglages étaient bien faits au sol et vol avec la déformation, ça ne s'est pas bien verrouillé. Et puis bon, voilà, c'est extrêmement banal. Au vol 2, ça s'est verrouillé. C'est des problèmes extrêmement classiques, ça.
Alors, médias. Il y a une période aussi dans la conduite de, je dirais, technique et commerciale. Vous devez exploiter l'aéronef en ligne autant que possible avec ce qui peut se passer avec les passagers à bord. Ce qui fait que vous avez fait des vols spécifiques avec un nombre de passagers à bord pour voir comment l'avion, dans sa globalité, se comportait.
Oui, alors ça c'est une histoire un peu ancienne, parce qu'on ne faisait pas ça au début, et j'ai participé il y a plus de 20 ans maintenant, au premier vol de mise en ligne de l'A340, c'était avec Air France, soi-disant pour aider les pilotes. Bon, mais en fait, j'ai rien fait pour eux, parce qu'ils savaient parfaitement manier l'avion. Par contre, derrière... Il y a eu des difficultés absolument incroyables jusqu'à avoir, par exemple, un soir, retour de Washington, je crois, plus de toilettes en arrivant à Gander. Alors, on fait quoi? On se pose, on se déroute. Bon, finalement, on a continué sans réveiller les passagers pour le petit déjeuner. Bon, bref, ça, c'est pour la petite histoire, mais on s'est dit... On ne prend pas assez, on ne fait pas assez attention à la mise au point de la cabine. Donc, on a complètement changé au moment de l'A340-600. Et au moment de l'A340-600, pour bien vérifier que tout allait bien, on a décidé qu'on allait faire des vols avec le plein de passagers, des vols de différentes durées, entre 7 et 15 heures. Et c'est ce qu'on a appelé à l'époque les vols ELF, Early Long Flight. Et qui ont été fort utiles parce que ça permet de faire pas mal de réglages. Et on a repris ça sur la 380. Et en particulier, il y a une chose qu'on ne peut voir qu'avec des passagers à bord, parce qu'on fait voler des, on met des mannequins pour regarder le chauffage. Bon, les mannequins, ils ne voient pas les courants d'air. Hein, on ne peut pas vous le dire s'il y a des courants d'air. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est qu'ils ne dégagent pas d'humidité. Alors que quand vous mettez des passagers à bord pendant plusieurs heures, eh bien, vous avez de l'humidité. Et puis, quand vous commencez la descente, eh bien, ça peut couler du plafond. Ce qui n'a pas manqué d'arriver sur la 380. D'ailleurs, Boeing a eu le même problème sur le Boeing 787. Et ce sont des problèmes qu'il faut régler. On trouve les solutions facilement. Mais il faut le détecter suffisamment tôt avant de mettre l'avion en service.
Alors, durant ces vols, il me semble que vous avez rencontré ce dénommé John Travolta.
Ah,
c'est une anecdote un peu moins technique, mais...
C'était pas durant ces vols, hein, c'était pendant la première tournée commerciale qu'on a fait, Singapour, Australie, et puis Dubaï également, les Émirats. Voilà.
Et donc, John Travolta, vous l'avez rencontré, il était beau, il était souriant. Est-ce que c'est un pilote?
Oui, alors John Travolta est un pilote, il a un Boeing 707, enfin il avait, je ne sais pas s'il l'a toujours, un Boeing 707, il a un autre avion d'affaires, il volait comme pilote de ligne de temps en temps, hein, chez Qantas, donc c'est quelqu'un qui connaît vraiment bien les avions, hein, de ce côté-là, pas besoin de lui faire un dessin, hein. Et donc on l'a un peu briefé pour qu'il explique aux médias locaux australiens que la 380 est un bel avion.
Vous avez quand même une carrière extrêmement intéressante parce que vous avez beaucoup voyagé, vous avez rencontré de multiples personnes, de multiples personnalités. Et en dehors de ce contexte, puisqu'on parlait d'un avion et de l'exploitation en ligne, en cas de problème, comment se passe l'évacuation? Et ça aussi, vous les avez simulés, les évacuations par toboggan, et ça doit être c'est loin d'être évident.
Oui, les évacuations, il faut le démontrer pour les nouveaux avions. C'est-à-dire qu'il faut démontrer qu'on est capable d'évacuer tout l'avion de nuit par la moitié des issues. Y compris les issues de secours, en moins de 90 secondes. On pourrait dire qu'on était un peu inquiets. Bon, je ne pensais pas que ça allait se faire. Et puis, en fait, on a évacué 872 personnes, je crois, en une minute 22. Donc, il y avait encore de la marge. On peut encore rajouter des sièges.
Donc tout a fonctionné en fait.
Je crois qu'il y a eu une jambe cassée et puis quelques petits blessés légers. C'est rien compte tenu des enjeux parce que on était quand même très très inquiets. Et ça c'est une opinion personnelle. Je pense que ces essais on devrait plus les faire. Nous a obligés à les faire, mais faire passer des personnes, mettre un peu en danger des personnes qui ne sont pas des spécialistes en faisant ce genre d'exercice, personnellement, ça ne me plaît pas. Je pense qu'il y avait des moyens de simuler ce genre de choses. Il y a des moyens de simulation et on pouvait très bien le démontrer autrement. Mais ça, c'est une opinion personnelle.
Alors nous arrivons doucement vers la fin et je voudrais aborder avec vous la question du 380 et prendre pour exemple aussi une des caractéristiques des essais, la gestion du vent de travers. Et dans différentes interviews que j'ai pu consulter, vous dites que finalement, le 380, le vent de travers, vous nous direz précisément, mais vous êtes monté à quasiment un vent de travers autour de 100 km/h.
Oui, 56 nœuds, oui, c'est à peu près 100 km/h.
Ce qui est quand même impressionnant, enfin, pour un atterrissage vent de travers.
Oui, mais c'est, à vrai dire, ce n'est pas ce qu'on avait l'intention de faire, mais on s'est retrouvé pris par les circonstances. Ces vents de travers, on arrivait vers la fin des vols, et pour un certain nombre de raisons, on n'avait pas pu les faire avant. Et il y a eu un bon créneau à Brest, mais on l'a raté parce que ce jour-là, on faisait voler notre président de l'époque, Christian Streff. Alors, dès que Christian Streff a débarqué de l'avion, on a essayé de monter un vol pour arriver à Brest, mais à Brest, le vent avait déjà tourné, il n'y en avait plus assez. Donc, on a recherché du vent, et puis, surveillant toutes les plateformes du nord de l'Europe, et puis, le temps, l'horloge tournait. Mais le problème, c'est que pour la certification, il faut démontrer un vent minimal, et on ne l'avait pas dans la poche. Et on s'est retrouvé avec un créneau sur Keflavik, en Islande, en disant, bon, le lendemain matin, il y a le vent de travers qui va bien. Et puis on est arrivé le lendemain matin, on devait partir avec Jacques Rosé, et avec Jacques, le vent était beaucoup plus fort que prévu. Mais il faut quand même 3h30 pour aller à Keflavik, donc on ne sait pas comment ça va évoluer. Alors, on a regardé l'évolution et puis les prévis météo. Il a dit, bon, on part. Et puis, quand on est arrivé là-bas, le vent aurait dû tomber un petit peu et il y avait encore des rafales jusqu'à 56 nœuds. Alors, c'était Jacques qui faisait le premier atterrissage. Je lui ai dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? On y va, on n'y va pas? Et puis, on s'est dit, bon, on doit pouvoir y aller. Et puis, si ça ne va pas, ben, on remettra les gaz. Et puis ça s'est très bien passé. Il a fait le premier, j'ai fait le deuxième. Puis après, c'est les quatre suivants ont été faits par le pilote de certification, le pilote de l'EASA, qui était là. Et on a fait donc 6 atterrissages. Et avec d'ailleurs, ce qui est assez remarquable, c'est que l'écart maximal par rapport à la ligne centrale n'a pas dépassé 5 mètres.
Ce qui est quand même impressionnant, parce que nos auditrices, auditeurs... Lorsqu'on se retrouve sur l'autoroute avec sa voiture, avec un vent de plus de 100 km/h en travers, on a quelquefois des écarts. Et vous nous dites avec un A380, vous voyez ce que ça représente, 5 mètres.
C'est un peu impressionnant parce que quand on arrive, il faut être face à la piste. Donc il y a une dérive, on a une dérive d'environ 20 degrés. Bon, mais il faut que le pilote soit et le nez dans le vent, parce qu'il faut que le train soit sur l'axe central. Donc il faut avoir le nez dans le vent. Donc ça fait une impression qui est un peu bizarre.
Alors, en fait, et vous l'avez dit à plusieurs reprises durant cette interview, bon, l'avion facile et je dirais tout est facile avec vous, Monsieur Lelay, en particulier avec l'Airbus A380. On voit sur une piste aujourd'hui, est-ce que l'A380 utilise toutes les pistes existantes?
En
largeur, bien évidemment.
En largeur, oui, parce qu'il est certifié pour des pistes de 45 mètres, qui sont les pistes courantes. Côté charge de train, il n'y a pas de problème parce que à 560 tonnes, il a 4 trains, alors que à près de 400 tonnes, le Boeing 777 n'a que 2 trains. Donc il fait des charges absolument énormes par train. Donc l'A380 est moins critique. Je dirais que les restrictions proviennent des largeurs de taxiway. Et puis, ben disons, et de tous les problèmes de circulation avec des marches suffisantes sur tous les aérodromes. Et puis, évidemment, des places, il faut avoir un emplacement qui permette de mettre un avion de 80 mètres d'envergure. Bon, un emplacement d'un 320 ne conviendra pas forcément.
Cela dit, un emplacement pour un A380 qui peut contenir jusqu'à 800 passagers, voire plus, considérant ce que vivent certains aéroports, c'est-à-dire certains aéroports qui peuvent être contraints, il y a le bon exemple peut-être de Londres Heathrow qui est là, l'A380 n'est-il pas dans ce contexte-là un avion d'avenir et pourquoi les difficultés actuelles dont on peut entendre parler?
Ben, peut-être que la 380 arrive un petit peu tôt, parce que si on prend l'exemple de Londres-Hissereau, c'est un terrain un peu critique, parce qu'ils n'ont que deux pistes, contrairement à Charles de Gaulle, où il y en a quand même quatre. Et donc, il y a un nombre de créneaux d'atterrissage qui est limité, et si on veut amener beaucoup de passagers là-bas, la seule solution, c'est d'arriver en 380. D'ailleurs, il y a 25 à 380 par jour qui se posent à Londres-Hissereau. C'est en dehors de Dubaï, qui est un petit peu particulier, qui a une belle collection de la 380, c'est le terrain où il y a le plus de la 380, Londres-Hissereau. Alors, dans le futur, au rythme où se développe le transport aérien, il y a certainement des terrains, avec la congestion des terrains, où il y aura besoin d'un 380.
Alors, il y a la congestion des terrains, il y a la congestion à certains endroits de l'espace aérien.
Congestion de l'espace, je ne pense pas que ça soit un gros problème. On est capable aujourd'hui de naviguer avec plus de précision, de séparer les distances entre les avions. Congestion de l'espace, on a des moyens quand même assez puissants aujourd'hui. Je crois que c'est pas demain, mais demain, quand vous avez que deux pistes, Hein, et là, vous pouvez pas comprimer les avions pour les affaires de turbulence de sillage dont je vous parlais tout à l'heure. Et également, le temps, vous êtes obligé de laisser à l'avion qui est devant vous le temps de dégager la piste. Avec un gros avion, c'est pas instantané. Voilà, donc il y a un temps minimal entre deux avions. Donc il y a pas la compression, elle ne peut pas être infinie.
Hein. Oui, et surtout d'autant plus qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de mal à construire de nouveaux aéroports. Ils peuvent le faire en Chine avec Pékin, mais bon, à d'autres endroits, c'est beaucoup plus difficile. En fait, Monsieur Lelay, dans toute cette interview, toute cette discussion, on est rassuré. Vos propos sont toujours rassurants quand vous décrivez vos essais. Et vous avez écrit avec votre fille Florence un livre qui s'appelle « N'ayez plus peur de l'avion ». Vous pouvez nous en parler des minutes ?
Oui, j'ai écrit pas mal de bouquins pour les jeunes. Et puis, j'ai eu envie de dériver un livre de tout ça que j'ai préparé avec ma fille. Bon, j'écris l'essentiel du texte, mais elle a remanié un petit peu tout ça pour faire améliorer la présentation, réécrire des passages. Voilà, donc on l'a fait ensemble. On s'est amusé avec ça.
Une passion transmise à votre fille, si je comprends bien. Comme votre papa l'avait transmise.
Oui, mais enfin, elle n'est pas dans l'aéronautique, mais elle écrit très bien, elle aime bien faire ce genre de choses.
Et donc, je vois, vous avez d'autres livres également que vous avez écrits. Vous pouvez très rapidement nous les citer ?
Disons que je participe tous les ans au Salon des métiers de l'aéronautique et je me suis aperçu qu'on parlait beaucoup aux jeunes des formations, mais pas beaucoup de l'exercice des métiers proprement dit. Si je prends un des bouquins là, qui s'appelle « Métiers de l'aéronautique, le transport aérien », j'ai voulu expliquer aux jeunes ce qu'était le transport aérien, pour un pilote de ligne, etc. Par exemple, d'abord la conception des avions, les aérodromes, les compagnies aériennes, la météo avec le givrage, le foudroiement, la préparation du vol, l'exécution du vol, les compagnies low cost, le fret, etc., pour rentrer tous les détails. Alors, j'ai écrit ça sur le transport aérien, sur la mise au point et les essais en vol. Voilà.
Et vous écrivez, encore une fois, de manière très didactique, et je conseille à nos auditrices et auditeurs de vous intéresser à vos livres. Ce n'est pas un titre très technique comme celui des essais en vol de l'A380, qui doivent les faire hésiter de le lire. Encore une fois, Monsieur Lelay, merci pour cette interview. Dans la prochaine émission, j'aurai le plaisir de recevoir M. Farid Zizi, qui a été le président de la commission de la navigation aérienne de l'Organisation de l'aviation civile internationale, l'OACI, dont le siège est à Montréal. Il a été le président de cette commission de 2013 à 2016. C'était L'Oiseau Blanc, une émission de Philippe Trousselard, avec à la technique Jean-Louis Arzac. Vous pourrez retrouver cette émission ainsi que les autres qui suivront sur la page Facebook d'Occitanie Première ainsi que sur le site de la station. Bonne soirée à tous, à bientôt.